Les chroniques du vivant de Corinne.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire ce que représente pour vous la biodiversité ? Qu'est-ce que c'est ?
La biodiversité, c'est tout le vivant qui nous entoure, les arbres, les insectes, les oiseaux, tout ce qu'on ne voit pas et qui est essentiel à la vie.
La biodiversité, c'est la préservation de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient.
La biodiversité, c'est la vie. C'est la vie qui est à la source de la vie et c'est le renouvellement et c'est la nature qui se nourrit elle-même de ce qu'elle a produit.
La biodiversité, c'est de garder intact tout ce que nous avons, reçu de la nature, les oiseaux, les fleurs.
C'est l'étude de toutes les diverses formes de vie, de leur organisation, et actuellement c'est surtout essayer de trouver les moyens de préserver et de faire fonctionner toutes les formes de vie le mieux possible.
Je vois que vous avez bien réfléchi au problème.
Oui. Qui n'y a pas réfléchi à part les politiques ?
Bio, c'est la vie, et diversité, c'est toutes les espèces. Donc pour moi, c'est faire en sorte que toutes les espèces vivantes aient la possibilité de mener leur vie jusqu'au bout. Et voilà.
Merci beaucoup.
Ah, que tous ces commentaires font chaud au cœur. Et on sent bien dans ce petit groupe une réelle inquiétude quant à la préservation du vivant. Mais la biodiversité, de quoi parle-t-on ? Bonjour à toutes et à tous, Corinne sur Radio Pays d'Hérault pour de nouvelles chroniques qui porteront sur le vivant avec la biodiversité en toile de fond tout au long des séquences. Mais auparavant, un brin d'histoire. Au départ, le terme de biological diversity a été inventé par le biologiste Walter J. Rosen en 1985 lors de la préparation du premier forum américain sur la diversité biologique. Le terme « biodiversité » a été par la suite popularisé par Edgar Osborne Wilson en 1988, puis s'est diffusé plus largement en 1992 à l'occasion du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Selon Gilles Boeuf, biologiste et professeur à Sorbonne Université, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Écoutons-le.
La biodiversité, c'est le vivant. Tout ce qui est vivant, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établi entre eux et avec leur environnement. Je disais dans ma leçon au Collège de France que c'est simplement, tout simplement, aujourd'hui, la fraction vivante de la nature. Donc ça comprend tous les êtres vivants, les bactéries, les protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux que sont par exemple le phytoplancton de l'océan ou les levures. Hein. Et sans levure, j'appelle qu'il n'y a pas de bière, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain. Les champignons, les plantes et les animaux. Et l'humain est profondément dans cette biodiversité, puisque lui-même est composé de cellules humaines et au moins autant de micro-organismes, de bactéries qui vivent dans lui et sur lui.
On est bien loin de nos représentations habituelles qui résument souvent la biodiversité à de jolies images d'animaux ou de paysages. Marc-André Selosse, directeur de la Société botanique de France, spécialisé dans la vie des sols, explique que la biodiversité est essentiellement microbienne et se déroule donc dans l'infiniment petit. Des dizaines de millions de bactéries, des centaines de millions de champignons. Il cite pour exemple nos microbiotes humains, pas seulement le microbiote intestinal, mais encore beaucoup d'autres comme la peau, la bouche, les muqueuses, le nez, la gorge, les poumons. Bien, tous nos microbiotes rassemblent à eux seuls 1000 à 3000 espèces de microbes. Je dis bien espèces, hein, pas individus. Soit, pour vous donner une idée, environ 2 kilos de microbes dans notre corps.
On est dans un monde de microbes. C'est eux qui font les sols, c'est eux qui font l'atmosphère, c'est eux qui font tourner les cycles de la matière. Nous sommes dans un monde de microbes. Bon, je sais que ça ne se voit pas, mais les microbes sont absolument partout et ils construisent absolument tout ce qui nous entoure, à commencer par nous. Effectivement, nous sommes nous-mêmes des immeubles à microbes, nous sommes de vrais zoos. Nous avons autant de cellules microbiennes que de cellules humaines dans notre corps, sans compter les mitochondries, dont il y a une dizaine ou une centaine de copies par cellule. Donc nous sommes constitués de microbes, et quand je dis « je », c'est en fait un zoo d'un bon millier d'espèces au minimum, et je suis bien lavé, c'est promis, sinon 2 ou 3 000 espèces qui parlent et qui disent « je ».
Et oui, notre propre corps est un écosystème pour des milliers d'espèces. Nous renfermons plus de bactéries que de cellules dans notre corps, et chacun de nous héberge bien plus de microbes que ce qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Aucune espèce n'est autonome sur la planète. Chacune doit composer avec d'autres vivants pour assurer sa survie. On peut évoquer les symbioses mycorhiziennes, arbres champignons, les pollinisateurs et bien d'autres associations basées sur le mutualisme, le commensalisme ou le parasitisme. Mais il en est de même pour nous, humains. Non seulement nous dépendons des microbes et bactéries qui nous habitent, mais notre nourriture, nos vêtements, notre chauffage, nos meubles, c'est encore de la biodiversité. Tout est issu du vivant. Mais revenons à notre définition de la biodiversité. Généralement, elle se décline sur trois niveaux interdépendants. La diversité spécifique, qui désigne le nombre d'espèces appartenant à un milieu. La diversité au sein d'une même espèce, soit la diversité génétique. Les individus au sein d'une même espèce n'auront pas forcément les mêmes caractéristiques. Leurs gènes peuvent en effet comporter de multiples variantes. Et la diversité écosystémique, ou écologique, qui désigne le nombre de communautés d'espèces qui vivent et interagissent ensemble dans un écosystème et ses divers écosystèmes. Par exemple, la forêt tropicale, les rizières, les récifs coralliens, l'océan. Vous voyez, la notion de biodiversité recouvre bien des domaines. Pierre-Henri Gouillon, biologiste, ingénieur agronome spécialisé dans la science de l'évolution, souligne le fait que la biodiversité est une dynamique faite d'apparition et d'extinction et que cet équilibre est en perpétuelle évolution, bien qu'actuellement en phase d'effondrement. Il cite pour exemple qu'en l'espace de 27 ans, 75% de la biomasse des insectes ailés dans les zones protégées ont disparu. Selon Philippe Grandcola, écologue et directeur de recherche au CNRS, la communauté scientifique a décrit environ 2 millions d'espèces sur Terre. Mais des travaux statistiques récents les estiment à environ 10 millions, sans y inclure les microbes. Et ce ne serait qu'une fraction infime de l'existant. Seulement 20% des espèces existantes seraient connues à ce jour. Extraordinaire, non ? Mais peut-être faudrait-il songer à ralentir notre prédation sur le vivant pour laisser du temps aux futures découvertes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Elle est mal, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le chip que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
perds quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain.
D'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi,
comme
que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène
et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde
de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Bien fort, use tes cordes vocales. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
peut-être que je parle pour ne rien dire. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira à la croissance de tes mamans. Servira à la croissance de tes mamans. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie humaine, du monde animal. Le bien fort ruste et corps de vos cannes. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Et le bien fort ruste et corps de vos cannes.
La biodiversité traverse une crise majeure avec un déclin massif des populations sauvages. Le WWF vient de publier, le 9 octobre, son rapport « Planète vivante 2024 » qui fait état d'un déclin de 73% des populations de vertébrés sauvages depuis 1970. L'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'équivalent en quelque sorte du GIEC pour la biodiversité, estime à 1 million les espèces de plantes et d'animaux menacées d'extinction par l'activité humaine sur les prochaines décennies. Les causes sont multifactorielles, mais toutes d'origine anthropique. Pollution, conversion des milieux et des exploitations, espèces invasives, réchauffement climatique. On entend parler de sixième crise d'extinction des espèces. Il faut savoir que 5 autres grandes crises nous ont précédées durant les temps géologiques, toutes liées à des événements extérieurs, comme le volcanisme, les météores. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle elle se produit. 100 à 1000 fois plus rapide que les précédentes qui, elles, se sont toutes déroulées sur plusieurs millions d'années, et que celle-ci est essentiellement causée par une seule espèce, l'homme. Vous me direz peut-être que l'infinie diversité des espèces a et aura toujours les capacités de s'adapter ou de se régénérer. Certes oui, mais à une seule condition, c'est qu'on ne les a pas entièrement décimées avant qu'elles puissent opérer leur propre mutation. Que dire par exemple d'un arbre ou d'une forêt déjà soumis au réchauffement climatique et à une déforestation massive ? Auront-ils assez de temps pour accomplir une adaptation ou une migration ? Peut-être. Mais ainsi que le formulait dernièrement Francis Allais, célèbre botaniste, il leur faut du temps, beaucoup de temps. Il faut juste leur foutre la paix. En tant qu'êtres humains, nous l'avons dit, nous faisons partie intégrante de la biodiversité. Nous sommes un maillon de la précieuse chaîne du vivant, mais nous semblons souvent l'oublier en privilégiant la surexploitation massive de la nature au lieu de préserver tout ce qui nous permet de vivre. Notre culture occidentale nous pousse à nous considérer comme séparés de la nature. C'est une vision qui creuse, à mon avis, une certaine incompréhension de ce qu'est le vivant et nous autorise, de fait, à moins le respecter et à le considérer uniquement comme une ressource. À l'inverse, dans d'autres régions du monde, certaines communautés autochtones vivent en totale interdépendance avec le vivant, je dirais même en immersion en lui. Mais peut-être aurons-nous l'occasion d'approfondir ce sujet plus tard. Suite au dernier rapport du GIEC, de nombreux pays se sont engagés sur des objectifs de développement durable. Le problème, c'est que nos politiques prennent des directives, mais les réduisent trop souvent à peau de chagrin. Je pense qu'il y a un vrai manque de courage politique quant à l'urgence des décisions à prendre face au réchauffement climatique et à la protection de la biodiversité, encore si peu prise en compte alors qu'elle est une arme majeure pour lutter contre ce réchauffement. Et nous, nous sommes quotidiennement soumis à des injonctions contradictoires qui nous laissent totalement déboussolés. Baptiste Morisot, philosophe et écrivain français, disait au cours d'une interview que la biodiversité, c'est la vie qui irradie dès que l'on cesse de la maltraiter. Je pense qu'il a fort bien résumé les choses. Nous voilà arrivés à la fin de cette chronique, pour laquelle je me suis donc appuyée sur les travaux des biologistes, chercheurs, botanistes Gilles Boeuf, Marc-André Selosse, Pierre-Henri Gouillon, Francis Allais, Philippe Grandcola. la plupart ont enseigné au sein du Muséum national d'histoire naturelle et sont connus pour leurs travaux de vulgarisation auprès du grand public. Je vous conseille donc vivement d'aller visionner en ligne leurs conférences ou de vous plonger dans leurs ouvrages, riches sources d'informations. À noter à cette occasion deux livres qui m'ont passionné. Nature et préjugés, de Marc-André Selosse, qui déconstruit un bon nombre d'idées reçues sur la nature, et L'inexploré, de Baptiste Morisot, qui nous ouvre les portes sur d'autres manières d'envisager notre relation au monde vivant, en évoquant le temps mythique, celui des métamorphoses. Vous trouverez les liens et références des extraits de podcasts cités en cours d'émission sur la page de présentation Radio Pays d'Hérault de ces chroniques. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.